vient d'être à 17h au studio Kalungu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 13 août 2021 au micro Nefis Adam Sirfo. Les titres de ce journal, des sites de prise en charge des cas de choléra ont été mis en place par Médecins sans frontières dans les zones du Niger touchées par l'épidémie. La coordinatrice médicale donnera des précisions dans quelques instants. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit d'hier à ce matin des habitants du quartier Mouadat 2 de la commune de Birninkoni. Ils seraient, selon des témoins, à la recherche de l'argent. Des victimes témoignent dans ce journal. À suivre en partie magazine de cette édition, une analyse d'un écrivain nigérien sur les conditions d'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises. Le 9 août, dans un point de presse, le ministre de la Santé du Niger faisait état de plusieurs cas de choléra avec des pertes en vie humaine dans trois régions. Médecins sans frontières, conformément au partenariat qui lie cette ONG à l'État du Niger, a mis sur pied des sites de prise en charge des cas détectés dans les différentes zones frappées par l'épidémie. Madame Hainikwai Hawahima Oumarou, coordinatrice médicale à MSF, donne plus de précisions au micro de Faisal Boubacar.
Quand on avait reçu les premiers cas, le 18, à partir du 20 juillet déjà, Médecins sans frontières a élaboré un centre de traitement pour le choléra côté du village, l'épicentre même. Mais nous, dans le centre de traitement que Médecins sans frontières est en train de gérer, on n'a pas enregistré de cas de décès. Et heureusement, nous avons admis des femmes enceintes et il y a eu même des accouchements sur ce site. Et les enfants et les mamans vont très bien. À Dengertekeya, il y a eu des alertes. À Miriaï, à Tanou, à Dungas. En même temps, Médecins sans frontières en train d'agir dans la région de Maradi. Il y a Madarumfa, il y a Maradiville. Et là aussi, la situation est sous contrôle avec les équipes de Médecins sans frontières, avec création du centre de prise en charge de traitement. Médecins sans frontières a entrepris aussi des démarches auprès des autorités sanitaires pour pouvoir vacciner les populations contacts.
Face à la pénurie de sang au district sanitaire de Gaïa de la région de Dosso, les étudiants ressortissants de la ville ont procédé hier à une séance de don de sang au district sanitaire. Selon Abdrahman Oumarou, le secrétaire général des étudiants, cette idée de don de sang provient d'un constat après une visite dans l'hôpital du district. Il est au micro de Fadelalou.
Nous avons jugé utile de faire un don de sang parce que nous avions passé voir d'abord les malades à l'hôpital. Donc c'est en ce temps que nous avions vu des patients qui souffrent également par manque de sang. Nous avions jugé utile donc d'amener notre contribution, au minime soit-elle, donc à l'endroit de l'hôpital national, communément appelé l'hôpital de référence de Gaïa. La mission de l'étudiant, c'est la recherche du savoir et la transmission de ce savoir-là. C'est des choses qui nous a permis, donc une fois en se rendant à l'hôpital, donc nous avions vu que vraiment les patients souffrent, donc les agents également, et le manque de sang, vraiment, ça les perturbe. Nous avions mobilisé, en tout cas, les étudiants, si je n'exagère pas, en tout cas, 60 étudiants.
Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, entre 1h et 2h du matin, des hommes armés non identifiés, venus probablement du Nigeria voisin, ont pénétré dans un quartier Mouadat 2 de la commune de Birninkoni. Ceux-ci ont menacé les habitants de donner de l'argent. Asmane Moussarzika a recueilli le témoignage d'un habitant du quartier. On l'écoute.
Les voleurs sont venus vers 1h du matin. Ma femme était dans la maison qui est sans porte et moi j'étais dans l'autre. J'ai entendu quelqu'un lui dire de se lever pour apporter l'argent. Elle a répondu qu'elle n'a aucun franc. C'est en ce moment que je me suis levé pour ouvrir la porte. Le voleur a entendu lorsque j'étais en train d'ouvrir la porte. Il a chargé son arme et m'a dit si je sors, il va me tirer. C'est ainsi que j'ai refermé la porte et je me suis caché. Elle a compris finalement qu'il n'y a pas d'argent et elle est partie. Personne n'a été blessé, mais elle a eu 350 francs avec ma femme. Ils sont venus à pied, ils étaient nombreux. C'est ce matin que j'ai appris qu'ils ne se sont pas limités seulement à mon domicile.
Ce qui s'est passé, moi j'ai entendu le bruit de marche d'une personne qui se dirige vers moi. J'ai crié au voleur trois fois. Arrivé devant moi, il m'a dit qu'il veut de l'argent. Je lui ai répondu que je n'ai pas d'argent. Alors il a retorqué en disant qu'il va me tuer. Je lui ai dit que je suis prêt. Juste au moment où je lui ai dit « Bismillah », les voisins sont arrivés et il a fui. Oui, il porte une arme à feu.
La suite de ce journal, les organisations de la société civile du Niger viennent de créer un observatoire des droits de l'homme. Selon les initiateurs, en zone de conflit, il est très difficile d'avoir des structures qui font le monitoring des droits de l'homme ou la collaboration entre la population civile et forces de défense. Abdoulaye Seydou, membre de cet observatoire, explique au micro de Refika Taher.
La mission de cet observatoire, c'est de faire un monitoring de proximité permanent de la situation des droits de l'homme en lien avec l'insécurité. Vous savez que dans ces zones de conflit, nous assistons à des violations régulières des droits de l'homme et malheureusement, les populations ne savent pas vers qui aller. L'autre deuxième mission principale de l'observatoire, c'est également de promouvoir et de renforcer la collaboration et le climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations à travers l'organisation des activités civilo-militaires, à travers l'organisation des débats de sensibilisation des communautés sur les enjeux et l'importance de collaborer avec les populations des forces de défense et de sécurité. Cette initiative intervient dans trois régions pour l'instant, notamment la région de Tawa, la région de Diffa et puis la région de Tillabéri.
À Diffa, la jeunesse de la région a célébré hier jeudi la journée internationale des jeunes à travers une conférence publique organisée par l'Association nigérienne pour la promotion des jeunes ANPJ. Le thème est engagement et participation des jeunes dans les activités pour un meilleur développement. Les participants ont souhaité la participation des jeunes pour un changement positif des mentalités. Écoutons quelques-uns au micro de notre correspondant Moussa Mani.
On a besoin d'abord de changer de mentalité. Changer de mentalité par rapport aux anciennes pratiques que nous faisons qui n'ont jamais porté de fruits et adopter une nouvelle mentalité. Je pense que si tout le monde peut avoir cette mentalité, ça va changer beaucoup de choses. Et j'ai touché juste le domaine de la salubrité par exemple. La plupart des temps, on a l'impression que d'autres vont venir le faire. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, c'est quelqu'un qui va venir le faire. Je pense que si chacun aussi peut penser que si quelqu'un l'a mis, moi aussi je peux le ramasser. Chacun a eu cette mentalité. Je pense que ça va amener un grand changement. Et quelqu'un qui a réussi à amener la propriété dans son quartier, c'est facile pour lui encore d'avoir d'autres mentalités de changement.
La femme peut travailler comme l'homme. On dit toujours l'homme. Nous aussi, on peut travailler comme eux. La femme peut travailler. Je veux dire qu'elle aussi, elle doit sortir, montrer de quoi elles sont capables et de ne pas avoir peur.
Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire OTAB vient d'éditer un guide à l'intention des organisations de la société civile. Ce guide leur permettra de comprendre les industries extractives au Niger et la transparence qui doit régir leur fonctionnement. Ali Idrissa, coordinateur du OTAB, donne des précisions au micro de Evelyne Danzoubé.
Ce guide, c'est un outil de travail pour les acteurs de la société civile pour pouvoir mieux faire en sorte que l'industrie extractive et pétrolière profite mieux aux citoyens. Vous savez, les compagnies achètent énormément de choses, mais quand vous regardez, c'est bien que ces compagnies achètent. Des fois, c'est même pas des fournisseurs nationaux qui livrent ces biens et services, mais encore des sociétés étrangères. Vous allez voir que des milliards et des milliards sont dépensés dans l'achat des biens et services au niveau local, sans aucune transparence. On a l'habitude de voir au Niger une société marocaine qui fait de la restauration dans les services miniers. Vous voyez, les bénéfices sont rapatriés ailleurs, alors que tout est acheté au niveau local. Et tous les employés sont des fois des Nigériens. L'utilité de ce guide, c'est pour améliorer la transparence dans son domaine et faire en sorte que ça profite réellement aux citoyens.
En vue du prochain recensement de la population prévu l'année prochaine au Niger, 33 animateurs de plusieurs radios communautaires des régions de Diffa, Zender, Maradi et Tawa sont en formation depuis ce matin dans la ville de Maradi sur l'utilité et l'importance de la statistique. Une formation initiée par l'Institut national de la statistique en collaboration avec la coordination des radios communautaires. Aïcha Amadou Ousmane, responsable de la communication à l'INS, est au micro de Adam Omoru.
L'atelier de Maradi, nous l'avons organisé en prélude au préparatif du 5e recensement général de la population. Et dans la nouvelle stratégie de communication et de diffusion dont nous nous sommes dotés, nous avons relevé l'importance des radios communautaires au même titre que la chefferie traditionnelle dans la conduite des activités de sensibilisation. C'est pourquoi nous vous avons pensé qu'il faut prendre les devants pour dès à présent faire comprendre l'importance et l'utilité de la statistique aux animateurs des radios communautaires, mais également spécifiquement sur le recensement général de la population, pour qu'à leur venue, ils nous accompagnent et que nous, on s'inspire de leur méthode pour mieux sensibiliser les populations avec lesquelles ils sont plus en contact que nous.
La 12e édition du Salon international de la femme USAFEM se tiendra du 28 novembre au 5 décembre 2021 à Niamey avec Agadez comme région phare. Ce matin, le secrétaire général du ministère du Tourisme a animé une journée de sensibilisation à Agadez afin de mobiliser toute la région. Dodo Akano est au micro de Anissé Karim.
Comme Agadez est la région phare cette année, naturellement nous avons commencé par la région d'Agadez. C'est de lancer une forte mobilisation. Agadez doit prendre toutes les dispositions en tout cas nécessaires pour que sa participation à la prochaine édition soit une réussite du point de vue de la richesse de ses produits et de la qualité. Le deuxième objectif, c'est de renforcer avant cette édition la capacité des femmes, le renforcement des capacités des femmes. Un certain nombre de femmes de Tawa Agadez qui vont être formées en vue de leur permettre effectivement de présenter des produits de qualité. La question du concept des régions phares, c'est que du point de vue de la richesse et de la variété de l'artisanat, Agadez, c'est quand même l'une des premières régions du Niger en termes, en tout cas, de production artisanale riche et variée.
À présent, le magazine de ce journal, le mois d'août est un mois où la plupart des anciennes colonies françaises ont accédé à l'indépendance. Le Niger, par exemple, a célébré le 3 août 2021 le 61e anniversaire de son indépendance. L'écrivain nigérien Idé Adamou revient sur les conditions d'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises. Pour lui, les accords postcoloniaux sont biaisés par la France. L'ancienne métropole a toujours caressé le rêve de maintenir ses anciennes colonies sous son jug. Idé Adamou, interrogé par Mokhtar Hamadou.
Il faudrait peut-être qu'on reconsidère un peu cette prétendue indépendance. Je prends un exemple. Vous êtes chef de famille et vous avez votre maison. Vous avez la responsabilité d'assurer le quotidien, tous les besoins fondamentaux de la famille, de leur assurer à manger, soigner les enfants, les éduquer, protéger votre maison contre des agressions extérieures, etc. Si ces besoins fondamentaux, vous n'arrivez pas par vos propres moyens à les assurer et qu'il faut attendre que quelqu'un vous amène à manger chez vous, vous n'avez pas les moyens d'éduquer vos enfants, je ne vois pas comment on peut appeler ça indépendance.
Donc, selon vous, l'indépendance, c'est seulement sur la bouche.
C'est totalement théorique et c'est même un rêve impossible dans l'immédiat. C'est pourquoi les premiers dirigeants ont lutté. C'est effectivement avoir une espèce d'autonomie politique en 60, mais la construction du pays doit se faire avec les moyens qu'ils ont. Et ça, il faut les moyens pour le faire. Malheureusement, dans les négociations pré-indépendance, il s'est passé beaucoup de choses qui apparaissent maintenant au grand jour avec les moyens d'information. À savoir que la France, pour ne pas la nommer, a concocté des accords machiavéliques pour maintenir toujours sous sa dépendance les 14 pays francophones qui ont accédé à l'indépendance dans les années 60. De Gaulle disait à son corps défendant qu'il aimait les grands départs qui font revenir. C'est-à-dire que vous partez, oui, mais je vous tiens là où c'est essentiel, c'est-à-dire dans tous les domaines stratégiques sur lesquels vous pouvez espérer vous développer et vous émanciper réellement.
Est-ce qu'il y a eu des relents réels d'indépendance au Niger?
Ah oui, il y en a eu plusieurs. D'abord, je veux citer l'exemple du vote du budget de 1964. Qui est vraiment la traduction réelle de l'esprit d'indépendance recherché par les autorités de l'époque. Le budget national s'élevait à 6 milliards 522 millions. Ce budget, lorsqu'il a été voté, le gouvernement et l'Assemblée nationale se sont félicités et ont été très heureux, avec beaucoup de fierté, de dire que c'est la première fois qu'un budget national a été voté sans l'aide de la France.
C'était une fierté nationale.
C'était une fierté nationale. Et c'est ça l'esprit d'indépendance, c'est une vision. Ne pas dépendre de quelqu'un. Deuxième exemple, c'est la critique que le président Diori Amane avait faite du franc CFA, de la zone monétaire, en 1969 d'abord, et puis surtout en 1972. Je crois que c'est le deuxième président après Sylvanus Olympio à remettre en cause la zone monétaire.
Ici se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Place à présent aux journaux en langue nationale. Et juste après, à partir de 18h15, je vous retrouve pour le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de médias de Niamey. Au revoir.